à 12h30 temps universel.
Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie d'appel sur l'actualité. C'est la libre antenne. Comme tous les vendredis, vous commentez l'actualité de votre choix. Je vous le disais tout à l'heure en préambule, au début d'émission, vous êtes nombreux à nous appeler du Mali pour réagir à la situation sécuritaire dans le centre du pays après l'attaque de Sobane qui a fait, rappelons-le, 35 morts. Le gouvernement a proclamé un deuil national de 3 jours. On va commencer justement la libre antenne avec cette actualité. Beaucoup d'auditeurs, on va commencer avec vous Gabriel, bonjour.
Oui, bonjour Rowan.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons après ce massacre à Sobane.
Oui, Juan, moi c'est très triste, d'abord mes condoléances. Moi j'ai dit que les sanctions qui ont commencé à tomber, je crois que c'est pas pour le moment les bonnes sanctions. Pour moi, ce qui serait mieux, c'est que l'État soit réellement présent sur le terrain. C'est qu'on puisse voir l'armée malienne sur le terrain, occuper toute cette région du centre. Tant que cela n'arrivera pas, qu'il y aura des tueries. Et que ce soit la force Barkhane, la force de la MINUSMA, la force du G5 Sahel, que tout cela commence réellement à se battre contre ces terroristes.
Quand vous dites, excusez-moi Gabriel, que les sanctions ne sont pas adaptées à la situation, vous faites notamment référence à la décision prise par les autorités de révoquer le gouverneur de la région de Mopti. Vous avez l'impression qu'elle n'est pas adaptée, cette sanction ?
Oui, récemment, on a relevé le chef d'état-major général des armées, il y a eu tellement de sanctions par rapport à cela, mais tout juste après même la visite du ministre de la Défense, il y a eu ce tact. Moi, c'est pas une question de l'aimant, moi je pense que c'est une question de volonté. Si le gouvernement a réellement la volonté, si la force Barkhane a la volonté, que la MINUSMA a réellement la volonté de mettre fin à ce combat, à ce conflit, on va mettre fin à ce conflit. Vous avez vu le cas de Kona, on a stoppé les terroristes à Kona. Ça c'est quoi? C'est parce qu'on avait la volonté de les stopper et pourquoi on ne veut pas faire la même chose actuellement où nous sommes.
Oui, enfin vous dites qu'on ne veut pas faire, enfin les autorités ne veulent pas faire, pourtant ces derniers temps, on a bien vu qu'il y avait une réponse sécuritaire, l'État a envoyé des renforts dans le centre du Mali.
Oui, l'État a envoyé des renforts certes, mais ces renforts-là, est-ce qu'ils ont la main libre pour se battre? Est-ce qu'ils ont la main libre d'aller là où ils veulent aller? Est-ce que les hélicoptères maliens ont l'autorisation d'aller où ils veulent aller? C'est ça la question, Juan Gomez.
Mais qui doit leur donner l'autorisation? Je ne comprends pas bien, Gabriel.
Voilà, maintenant, parties prenantes qui sont dans
Gabriel,
cette histoire-là...
Vous dites, France, excusez-moi, Gabriel, vous dites, est-ce que les hélicoptères de l'armée malienne ont l'autorisation d'aller là où ils veulent? Qui doit leur donner cette autorisation? Je ne comprends pas bien.
Eh ben voilà, ça c'est les parties prenantes. Maintenant, c'est le terrain qui commande. Sur le terrain, on sait qu'on ne voit pas d'hélicoptère, des gens qui se promènent en moto pour commettre ces actes. Et si on a des hélicos qui peuvent les empêcher de faire cela, pourquoi ne pas les utiliser?
Oui. Alors, restez en ligne, Gabriel. Mariam nous appelle également de la capitale malienne. Bonjour, Mariam.
Bonjour à vous, Juan.
Bienvenue sur notre antenne. Est-ce que vous comprenez le commentaire de Gabriel? Est-ce que, comme lui, vous avez l'impression que le gouvernement malien manque de volonté?
Je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que justement, ce qui s'est passé en mars dernier, ils ont révoqué certaines personnes, et puis là, ce sont les mêmes mesures qu'ils reprennent. Ça n'a rien servi, et là, on fait face à la même situation. Je pense qu'ils ne prennent vraiment pas de mesures éradicatives. Ils doivent agir, trouver des solutions pour nous sortir de là. Parce que même nous qui sommes là en ville, nous vivons dans la peur constante que ces gens ne viennent pas là.
Ça veut dire quoi? Il faut renforcer la présence de la MINUSMA, des casques bleus par exemple?
Exactement, c'est ce que j'ai dit quand l'autre jour on m'a appelé. La MINUSMA, déjà avec notre armée, c'est pas facile, on a pas mal de problèmes avec notre armée. Donc quand on va demander de l'aide à la MINUSMA pour qu'ils renforcent leur présence ici, je pense que ce serait un plus pour nous. peut-être qu'on n'aura plus à faire face à cette situation.
Oui, c'est ce que dit et c'est ce que demande hein, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Thiébilé Dramé. Il veut un renforcement de la présence de la MINUSMA dans le centre du pays. Mariam, là aussi, ne raccrochez pas, comme Gabriel, évidemment. On accueille Alassane, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Juan Gomez.
Vous souhaitiez également prendre la parole après cette attaque de Sobane.
Effectivement, Monsieur Juan Gomez. Et je rejoins les deux prédécesseurs tout de suite qui parlent sur le point de la présence du Mali au centre. Effectivement, Monsieur Juan Gomez, le Mali doit être présent au centre. Parce que il y a une semaine de cela, il y a eu une attaque dans le même centre. Et une semaine après, une deuxième attaque a eu lieu. Bon, personnellement, moi, je pointe du doigt l'imprudence de nos forces de défense, qui ne sont pas à bout jusqu'à présent d'éviter de tels actes.
Mmh. Mais par exemple, Serge Daniel l'évoquait tout à l'heure en première partie, puisque notre correspondant répondait à la question d'un auditeur de Ouagadougou. Serge Daniel rappelait que le président malien hier avait une fois de plus promis le désarmement de tous ces groupes, des groupes armés, des groupes d'autodéfense qui détiennent illégalement des armes. Est-ce que la solution ne passe pas effectivement par ce désarmement ?
Oui, la solution peut passer par là, Monsieur Juan Gomez, mais nous attendons cela depuis longtemps. C'est quelque chose que le président devrait faire il y a bien longtemps de cela. Parce que nous connaissons tous la réalité. L'insécurité qui règne dans ces centres, nous les connaissons. Mmh. Et ceux qui sont en train de faire ces actes-là, nous les connaissons. Donc, vraiment, il faut une vigilance de nos forces de l'ordre.
Ouais, qu'elles aient davantage de moyens éventuellement donc pour faire face à ces groupes notamment d'autodéfense. Mariam à Bamako, vous y croyez, vous pensez vraiment que l'État malien peut désarmer tous ces groupes qui détiennent des armes de façon illégale?
Bien sûr, l'État peut faire ça. Tout dépend de leur volonté. Ça fait longtemps que le président il a fait la promesse, mais il n'agit pas.
Bien.
On a assez entendu parler, il a dit pas mal de choses, mais maintenant il faut qu'il passe à l'acte. C'est tout ce que nous attendons de lui. Il faut qu'il nous protège, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on l'a élu.
Il faut qu'il nous protège, dites-vous, Mariam. Merci d'avoir appelé RFI. Bonne journée à Bamako. Merci à Gabriel. Et on salue évidemment Alassane qui nous appelait de Sikasso. 33 9 693 693 70. C'est la libre antenne. Alassane nous a contacté de Conakry. Soyez le bienvenu, Alassane.
Oui, bonjour, hein, bonjour à tous les fidèles auditeurs des RFI.
Vous nous interpellez après les heurts qui ont opposé hier partisans du Front National pour la Défense de la Constitution et forces de l'ordre. Les faits se sont déroulés à Zérékoré, dans l'extrême sud du pays. Et vous êtes inquiet, vous, par la tournure des événements, Alassane?
Très inquiet, Juan. Surtout quand je vois la situation, la tournure de la situation concernant le projet de leur modification de la Constitution. Et je trouve que vraiment le peuple n'a pas la voix pour exprimer sa volonté contre la modification de cette nouvelle Constitution. Donc, je vois que le pouvoir, ce qu'il arrange, c'est ce qu'il fait. Sinon, on ne peut pas empêcher une partie de la population de dire non à leur projet. Mais regardez ce qui s'est passé à Zérékoré, M. Wan. On sort, si c'est les partisans de la nouvelle constitution, on les laisse manifester librement. Et puis les forces de l'ordre les accompagnent. Mais si c'est les autres, c'est l'opposition, on les traque et puis on les blesse, on les tue, mais je ne peux pas comprendre.
Oui, enfin, hier, il y a eu des blessés, il n'y a pas eu de morts. Et je rappelle tout de même que la manifestation organisée hier par le FNDC, donc le Front National pour la Défense de la Constitution, cette manifestation, cette marche pacifique, était interdite. Et malgré l'interdiction, les organisateurs l'ont maintenue.
Mais Monsieur Wan, pourquoi interdire la marche contre la modification de la nouvelle constitution? Si on devait interdire la marche en Guinée, elle devait être interdite dans toutes ses formes. C'est-à-dire le pouvoir ne peut pas vraiment se manifester, savoir et interdire une partie de la population vraiment de ne pas manifester, Monsieur Wan. Est-ce que vous voyez la situation?
J'entends la manifestation, enfin j'entends en tout cas votre position et votre commentaire. Alassane, est-ce que vous diriez que la démocratie est aujourd'hui menacée quand vous voyez qu'on autorise certains à manifester et qu'on interdit le droit de marcher à d'autres mouvances?
Monsieur Wan, j'en appelle à la conscience de l'opinion internationale parce que dans mon pays, la démocratie est en train d'être assassinée par le pouvoir d'Alpha Condé. Franchement, parce que si la communauté internationale ne se lève pas pour freiner Alpha Condé et son pouvoir dans son élan, franchement, la démocratie risque de mourir complètement en Guinée.
Parce Alassane, on a bien entendu. En tout cas, je précise, puisqu'on parle de tentative de réviser la Constitution, pour l'instant, le chef de l'État en personne ne s'est jamais exprimé sur ses intentions. Il maintient le flou, certes. Oui, le Premier ministre a dit qu'il fallait modifier la Constitution. Il l'a dit il y a une dizaine de jours. Mais pour l'instant, le chef de l'État, lui... botte en touche à chaque fois qu'on lui pose la question. Donc, on suivra évidemment de très près l'évolution de la situation sur nos antennes et vous aurez l'occasion évidemment d'y revenir dans Appel sur l'actualité. Armand, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Cotonou et vous nous interpellez, vous, sur la médiation de l'Église dans la crise politique au Bénin, une crise née, faut-il le rappeler, après la décision de la commission électorale de n'autoriser aucun candidat de l'opposition à prendre part aux élections législatives du mois d'avril. Du coup, eh bien, tous les députés élus appartiennent au même camp. Ils sont tous membres du camp du président Patrice Talon. Et vous êtes satisfait, vous, de la médiation de l'Église? Vous dites, enfin, elle a pu commencer.
Oui, oui, l'Église, qu'on le veuille ou non, quand même a une capacité de négociation. On a connu ces négociations, tout ce qu'elle a fait par le passé. Moi, j'apprécie déjà l'option qu'ils ont faite de commencer par rencontrer les gens de l'opposition. Parce que du côté du pouvoir, je crains qu'il n'y ait pas une oreille attentive. Parce que par le passé, l'Église avait fait un communiqué que le président n'avait pas du tout apprécié, je ne sais pas si vous vous rappelez, n'avait pas jugé l'Église impartiale dans son communiqué. Maintenant, je pense que les gens à convaincre pour retourner à la paix, c'est bien l'opposition. Les positions sont tellement campées qu'il faut arriver à faire faiblir l'opposition dans sa démarche. Pour faire comprendre que la paix n'a pas de prix.
Armand, j'entends bien, mais l'opposition refuse de reconnaître la nouvelle Assemblée nationale. D'ailleurs, l'opposition avait appelé ses partisans et la population d'une façon générale à boycotter les élections législatives. Taux d'abstention record, 73%. Que doit faire l'opposition? Vous dites, il faut qu'elle revienne à la table de négociation. Mais négocier quoi? Obtenir quoi? Que peut attendre aujourd'hui l'opposition béninoise?
Non, je pense que qu'on le veuille ou non, cette assemblée, elle est installée. Et je ne vois pas le pouvoir reculer dans son action. L'opposition comprenne juste qu'il y a un sacrifice à faire.
D'accord. Écoutez, Armand, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé de Cotonou. Et on suit là aussi de près cette situation régulièrement. Le vendredi, vous nous interpellez sur la crise béninoise. Donc voilà, on peut pas rappeler tous les Béninois qui nous contactent. Mais c'est promis, on aura l'occasion d'y consacrer tout un débat prochainement. Bonne journée, Armand. Donc, on s'intéresse au Soudan. Enoch souhaite nous interpeller justement sur cette décision des contestataires de mettre fin à leur mouvement de désobéissance civile. Bonjour Enoch.
Oui, bonjour Anne.
Vous êtes à Brazzaville et vous vous intéressez particulièrement justement à la situation soudanaise. Les contestataires ont bien fait ou pas de mettre fin à leur mouvement de désobéissance civile?
Oui, il fallait bien qu'on arrive à mettre un terme à ce mouvement parce que d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on trouve la solution à la situation du pays. Ils ont posé des conditions. Moi, je crois qu'en matière de négociation, ça vaut bien la peine, mais qu'ils acceptent aussi que, de l'autre côté, qu'ils considèrent la peur qui anime aujourd'hui les militaires qui sont au pouvoir, parce qu'en fait, déjà, ils ont reconnu avoir donné des ordres pour disperser les foules. Et la situation s'est soldée par beaucoup de morts. La peur est d'être traduite en justice, la peur est d'être traquée. Bon, on ne peut pas aller négocier sans faire des concessions. je crois qu'il serait intéressant qu'on arrête d'abord le mouvement de désobéissance civile et ensuite qu'on commence à regarder de l'avant.
Alors justement, à regarder de l'avant, ça veut dire quoi pour vous, Enoch ? Vous parliez du bilan extrêmement lourd, 118 personnes sont mortes ces 10 derniers jours, principalement à Khartoum. On parle également de plus de 500 personnes blessées lors de la répression des militaires. Que faut-il faire aujourd'hui, Enoch ? Quelles concessions doivent accepter les civils ?
Bon, les civils devraient accepter que les militaires fassent partie de la transition et que les militaires acceptent que finalement la transition soit conduite par un premier ministre ou un responsable de l'opposition pour amener finalement le pays vers un mouvement qui, à la longue, ferait que les militaires regagnent les casernes. Parce que ce serait aujourd'hui imprudent de faire que les militaires soient totalement exclus, sachant que ce sont des hommes qui ont dû commettre des actes qui leur sont répréhensibles. Voyez-vous ? Donc moi je me dis qu'il faut, et pour qu'on y arrive, il faut dire que tous les pays qui ont des relations commerciales avec le Soudan puissent prendre part ou qu'ils puissent peser de tout leur poids de sorte que les militaires acceptent de céder le pouvoir progressivement, oui, mais en faisant partie de la transition.
Et parmi parmi ces pays, on peut citer l'Éthiopie. Hein. Le Premier ministre éthiopien était sur place il y a tout juste une semaine. Il a nommé un médiateur. On voit que les États-Unis aussi tentent une médiation pour trouver une solution politique et pacifique. Washington a nommé un émissaire spécial pour la crise au Soudan. Et puis le Conseil de sécurité des Nations Unies qui suit évidemment de très près l'évolution de la situation. On rappelle que l'Union africaine n'est pas en reste, hein, puisque l'UA a suspendu la semaine dernière le Soudan, le temps que des civils effectivement soient installés pour la gestion du pays. Il nous reste 3 minutes 30 si nous parlions de la République démocratique du Congo. Nous y étions cette semaine, vous avez été d'ailleurs très nombreux à nous rejoindre à la halle de la Gombe pour les enregistrements d'émissions. On va parler maintenant de cette décision de la Cour constitutionnelle sur place. La Cour constitutionnelle qui a décidé d'invalider l'élection de 23 députés de l'opposition au profit du FCC. Le FCC, c'est la coalition de l'ancien président Joseph Kabila. Bonjour Papy.
Bonjour.
Bienvenue. L'opposition est vent debout après cette décision de la Cour constitutionnelle et vous ne comprenez pas pourquoi la décision de la Cour choque à ce point.
Oui, parce que nous savons que les arrêts ont été rendus dans le respect des normes et des lois. Il est anormal qu'aujourd'hui l'opposition se considère comme étant le victime de la décision de la Cour constitutionnelle, étant donné qu'il y a aussi des députés du FCC qui ont été invalidés.
Oui, il y a eu une trentaine de députés dont l'élection a été invalidée, et sur ces 32 ou 33, je n'ai plus le chiffre exact, 23 sont issus de l'opposition. Donc c'est l'opposition qui est la principale victime de la décision de la Cour constitutionnelle.
Je ne préfère pas parler de la victimisation de l'opposition. Il s'avère aujourd'hui que le FCC, qui est majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale, connaît l'invalidation de ses membres. Et je vois très mal aujourd'hui que ceux qui sont minoritaires puissent se considérer comme étant victimes par rapport à ceux qui sont majoritaires. Je vous dis que ça s'est fait dans le respect de la loi, de l'art.
C'est votre interprétation. Excusez-moi, Papy, vous dites que ça a été fait dans le respect de l'art, dans le respect de la loi. L'opposition considère que la Cour constitutionnelle a pris des arrêts en dehors du délai prévu par la loi pour gérer les contentieux électoraux. Le délai est limité à 2 mois. Le délai légal est de 60 jours. Et l'opposition dit que ce délai a été dépassé.
Non, je ne crois pas. Les élections elles-mêmes ont été aussi repoussées d'une semaine. En ce qui concerne la promulgation des résultats, il y a eu aussi un glissement. Donc je ne crois pas que cela soit constitue un élément pour discréditer les arrêts de la Cour constitutionnelle. Le plus important ici, c'est qu'il faut relever qu'au niveau du FCC, il y a eu des députés qui ont été invalidés,
d'accord,
comme à l'opposition.
C'est votre position, ce n'est pas celle de l'opposition. Excusez-moi, je répète 2 fois le même mot, mais c'est ainsi. En tout cas, vous ne faites pas partie de ceux qui affirment que la Cour constitutionnelle est aux ordres de l'ancien président. Merci à tous de votre fidélité. On arrive déjà à la fin de la semaine, à la fin de la Libre Antenne. On sera de retour lundi. Lundi, on parlera football. Et oui, on sera à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. L'occasion de dresser un état des lieux du football africain. Nous verrons quels sont les atouts, les faiblesses des 24 équipes qualifiées. D'ailleurs, dans quel état d'esprit se trouve votre sélection ? On vous attend bien évidemment au standard. Caroline Paré, soyez la bienvenue. Bonjour.
Bonjour, Juan.